Et avec la récursivité, on aura un petit peu fait le tour d'un ensemble de constructions des langages de programmation qui s'appellent les structures de contrôle. Et les structures de contrôle sont ce qui permet à un programme, quand on l'exécute, de ne pas simplement que l'exécution ne soit pas simplement l'exécution de la première ligne, puis l'exécution de la deuxième ligne, puis l'exécution de la troisième ligne, et puis ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne. Vous voyez que le temps d'exécution du programme, si on n'avait que la séquence, eh bien serait proportionnel à la longueur du programme. Or, c'est pas le cas. Il y a des programmes qui peuvent tourner pendant des heures. Il y a des programmes qui ne s'arrêtent jamais. Et la raison pour laquelle ces programmes ne s'arrêtent jamais, c'est pas parce qu'ils sont formés d'un nombre infini de lignes, c'est parce que certaines lignes sont exécutées un nombre infini de fois. Donc il y a toujours deux manières de regarder un programme. Il y a le regarder de la première ligne à la dernière ligne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse statique du programme. Et ensuite, il y a une autre dimension qui est l'ordre dans lequel les lignes s'exécutent. Et ça, c'est la dynamique du programme. Et donc vous voyez que le test permet de sauter certaines parties du programme, d'aller directement du if au else, par exemple. La boucle permet d'exécuter plusieurs fois la même instruction, et on va voir que la récursivité fait partie de cette famille de constructions qui permettent d'exécuter certaines parties du programme un grand nombre de fois. Alors avant ça, on va voir une autre notion qui, d'un point de vue conceptuel, fait plutôt partie de l'amphi d'hier, qui s'appelle le passage par valeur et le passage par référence, et qui appartient plus conceptuellement à la notion de fonction. Bien, alors d'abord, où est-ce qu'on en était hier? Eh bien, on avait repris les définitions de la fonction θ et de la fonction sigma. Donc je me rappelle que la fonction θ s'applique à une expression et la fonction sigma s'applique à une instruction. Un exemple d'expression, c'est x plus 3. Un exemple d'instruction, c'est y égale x plus 3. Et à une expression, on associe une valeur. Et à une instruction, on associe un nouvel état de la mémoire. Alors, cette valeur et ce nouvel état de la mémoire dépendent depuis avant-hier, depuis toujours, donc depuis avant-hier, donc depuis toujours, de l'état dans lequel on exécute, on évalue cette expression ou on exécute cette instruction, et cet état, il est formé d'un environnement et de mémoire. Et hier, on a rajouté un environnement global qui contient la définition des variables globales du programme et des fonctions. Et puis, on a vu que le fait que certaines expressions soient des fonctions fait que leur exécution, l'évaluation d'une expression, peut demander l'exécution d'un bout de programme arbitraire, d'une instruction arbitraire, et donc peut modifier la mémoire. Et donc, on a changé la fonction θ de manière à ce qu'ici, on indique dans sa définition également le nouvel état de la mémoire. Et puis, on a vu que une instruction pouvait ou bien s'exécuter normalement, auquel cas on indique qu'elle s'exécute normalement en rajoutant ici un drapeau, un booléen qui indique que tout s'est passé normalement, normal, ou bien on peut rencontrer l'instruction return, et dans ce cas-là, on a une exécution qui est exceptionnelle, et on l'indique avec ce booléen return, et dans ce cas-là, il faut indiquer la valeur v retournée. Bien, donc on en était là, et on a fait un exemple la dernière fois, et on peut en faire un deuxième. Qui est ce qui se trouve ici? Donc, j'ai un programme qui s'appelle 3 vers et qui illustre le principe des 3 vers. Et dans ce programme, j'ai deux variables globales, A et B, qui se trouvent ici. Et j'ai dans le programme principal, la fonction main, j'ai commencé par affecter la variable globale A avec la valeur 4 et la variable globale B avec la valeur 7. Et puis, ce que je fais, c'est d'introduire une troisième boîte qui s'appelle C. Et je m'aperçois que j'ai oublié l'étiquette C. Chaque année, j'oublie l'étiquette C. Donc, que je mets ici. Hop, c'est un C. Et je fais C égale A, A égale B, B égale C. Donc, quand je vais faire C égale A, je vais mettre dans C la valeur 4. Quand je vais faire A égale B, je vais mettre dans A la valeur 7. Et puis quand je vais faire B égale C, je vais mettre dans B la valeur 4. Et donc vous voyez que alors que j'étais parti avec un état où j'avais 4 ici et 7 là, j'arrive dans un état dans lequel j'ai interverti le contenu des boîtes A et des boîtes B. Et ça, je ne peux le faire qu'en utilisant une troisième boîte. Exactement comme quand vous avez un verre qui est rempli de jus d'orange et un autre verre de jus de pomme, et que vous voulez mettre le jus de pomme dans le verre de jus d'orange et le jus d'orange dans le verre de jus de pomme, vous êtes obligé d'utiliser un troisième verre. D'accord ? Ou sinon, il faut être jongleur, mais avec des liquides, il vaut mieux éviter. Bon, donc c'est pour ça que le programme s'appelle le principe du troisième verre. Alors ici, ensuite, j'affiche le contenu de la variable A et le contenu de la variable B, et donc je vais afficher... Qu'est-ce que je vais afficher ? 7, et ensuite 4. D'accord ? Donc ce qui est formidable, c'est qu'au lieu d'afficher 4 et puis 7, j'affiche 7 et puis 4. Bien, maintenant je me dis, ce processus qui consiste à intervertir le contenu de deux variables, bah, c'est quelque chose que je vais vouloir utiliser assez souvent, c'est quelque chose qu'on fait qui va vraisemblablement se répéter dans les programmes, donc je vais faire une fonction. Cette fonction s'appelle swap, et je me dis, il y a ici deux variables A et B que je veux intervertir, donc je vais appeler ici la fonction swap de AB, et ici j'ai écrit la fonction swap, donc je prends deux arguments formels qui s'appellent X et Y, et puis à l'intérieur de la fonction, je recopie ce que j'avais ici, mais au lieu de les appeler C, A et B, eh bien je les appelle Z, X et Y. Donc quand j'appelle ça avec A et B, ça va s'exécuter avec A et B, et quand je l'appelle avec deux autres variables, ça va s'exécuter avec deux autres variables. Et puis après avoir interverti le contenu de A et B, j'affiche le contenu de A, j'affiche le contenu de B, et qu'est-ce que j'obtiens ? 4 et 7. Voilà, donc c'est le drame qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'obtenir 7 et 4, comme j'avais voulu le faire, j'obtiens 4 et 7. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que qu'est-ce qui se passe au moment où j'exécute la fonction swap de AB, qui se trouve ici ? Eh bien, l'appel de la fonction va m'étendre l'environnement avec une nouvelle boîte X et une nouvelle boîte Y. Je vais calculer la valeur des arguments qui se trouvent ici, A et B, et je vais obtenir pour A, je vais obtenir 4, et pour B, je vais obtenir 7, et puis je vais exécuter le corps de cette fonction, ça veut dire que je vais échanger ce 4 et ce 7, et puis je vais quitter la fonction, c'est-à-dire ces étiquettes vont disparaître, je pourrais enlever les boîtes ou les laisser, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est que le contenu des boîtes A et B n'a pas changé. Et donc simplement en isolant ce petit bout de programme qui était ici dans une fonction, eh bien j'ai changé la signification du programme. Le programme ne fait plus la même chose, le programme n'affiche plus la même chose. Et donc, bien entendu, c'est pas ça que je voulais faire. Et donc, il faut que j'introduise dans mon langage de programmation de nouvelles constructions qui vont me permettre de changer la signification de cette fonction swap de manière à ce qu'elle intervertisse bien le contenu des variables A et B. Alors, avant ça, vous voyez que ici, la fonction swap, elle n'utilise que la valeur de ses arguments au moment de l'appel. Et donc ici, en écrivant swap de A et B, c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement la même chose que si j'avais écrit swap de 4 et 7. Et donc autant on peut comprendre ce que ça veut dire intervertir le contenu de deux boîtes A et B, autant intervertir les nombres 4 et 7, ça n'a pas un grand sens. De la même manière, ici, au lieu de j'aurais pu mettre 2 plus 2 ou A plus 2, et encore une fois, ça n'aurait eu aucun sens. Donc ici, ce que je veux faire, c'est avoir une fonction que je ne peux appeler que avec des variables. Ça n'a pas de sens d'appeler cette fonction avec des expressions quelconques, comme des constantes ou des expressions de la forme A plus 4, A plus 2, etc. Dans la signification que je veux. Aujourd'hui, ça a un sens, de toute façon, ça ne va rien faire. Bien, ce qui est intéressant, c'est que tous les langages de programmation permettent d'écrire une fonction swap qui fait ce qu'on veut, mais chacun des langages de programmation propose une solution qui est différente. Donc autant on a vu que sur la boucle, par exemple, la boucle while, on la retrouve de la même manière en C, en Java, en Camel, en Pascal. Et donc là, on a atteint une espèce de consensus sur la manière dont il faut programmer une boucle. Il y a juste quelques petites variantes de syntaxe complètement superficielles. On a vu que sur l'affectation, tout le monde n'était pas complètement d'accord, puisque par exemple, non, enfin pas sur l'affectation, mais sur l'utilisation d'une variable, on a vu que dans Camel, il fallait parfois mettre un point d'exclamation, alors qu'il ne fallait pas le mettre en Java et en C. Donc là, on commençait à avoir des petites variantes entre les langages. Mais avec cette notion de passage d'arguments par référence, on va voir ici les langages complètement se séparer. Alors, un langage qui n'est pas un langage qu'on utilise souvent, auquel on fait souvent référence dans le cours, c'est Pascal. Et c'est l'unique jour où on va parler de Pascal, puisque Pascal avait une très bonne idée, qui était de rendre complètement explicite le fait qu'il y avait deux types de passages d'arguments. Il y a la fonction swap, où on indiquait que x était un entier et y était un entier. Donc ça, c'est la syntaxe de Pascal. En Java, on écrirait int x, int y. Bon, en Java, on écrit integer, puis on met le type après avec un deux points. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais en plus de ce passage d'arguments, qui est celui qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, qui est le passage d'arguments par valeur, il y avait une autre manière de passer des arguments, qui passait des arguments par variable. Ça s'appelait passage par variable. Et donc, du coup, on rajoutait en Pascal le mot-clé var. Enfin, je pourrais dire on rajoute. Pascal est un langage qui existe encore, mais qui est essentiellement un langage du passé. Donc, on écrivait un mot-clé var avant le nom de la variable. Et quand on avait déclaré une fonction ou une procédure comme ça, au moment où on faisait le passage d'arguments, au lieu de calculer la valeur des arguments et de les recopier dans deux nouvelles boîtes, eh bien, tout simplement, on mettait ici un nouveau nom à la même boîte. Et donc, cette boîte qui s'appelait avant A s'appelle maintenant A. Et X, elle peut être désignée par deux noms différents. Et cette boîte, ici, peut être désignée par le nom B et Y. Et donc vous voyez que si j'intervertis le contenu des boîtes X et Y, eh bien, comme par miracle, le contenu des boîtes A et B a également été interverti. Voilà, donc ça c'était la solution de Pascal au problème, mettre deux étiquettes à la même boîte. Et ça se fait en utilisant un mot-clé spécial et un mode de passage des arguments qui était spécial et qui s'appelait le passage d'arguments par variable ou par référence, mais en Pascal on disait par variable, et ce qui explique le mot-clé var. Alors ça, c'était le cas de Pascal. On ne fait plus beaucoup comme ça aujourd'hui, et on va voir les solutions que Camel et que C proposent. Alors en Camel, on va utiliser précisément ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que en Camel, la valeur d'une variable mutable, comme celle-ci, la valeur de A, ici, ce n'est pas 4, mais c'est quoi? C'est la référence elle-même, c'est-à-dire c'est le nom de cette boîte. Et si je veux parler de 4, je suis obligé de mettre un point d'exclamation devant le nom de la variable, de manière à dire la valeur associée dans la mémoire à cette référence. Donc, ici, quand j'appelle la fonction swap, il serait naturel que je mette des points d'exclamation, puisque si je veux faire la même chose que ce que je faisais en Java. Mais précisément, j'ai cette possibilité d'omettre le point d'exclamation. Et dans ce cas-là, ce que je vais passer en argument à la fonction swap, ici, ce à quoi x et y vont être associés, ce n'est pas la valeur de la variable a 4 et la valeur de la variable b 7, c'est-à-dire m de e de a, mais c'est tout simplement e de a, c'est-à-dire la référence qui se trouve ici. Donc, je vais, contrairement à ce qui se passe en Pascal, avoir une boîte x et une boîte y. Mais le contenu de ce que je vais mettre dans X et dans Y, eh bien, ce n'est pas les Y dans X et la A que je vais mettre dans X. C'est un outil de mettre dans une boîte quelque chose qui fait référence à une autre boîte. J'en ai même deux. Donc il y en a aussi un pour y. Et donc voilà l'état dans lequel je vais exécuter le corps de la fonction swap. Et alors qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre dans la variable z la valeur associée dans la mémoire au contenu de la référence x, de la variable x. Donc c'est quoi la valeur de x? Alors x est là. Ah oui, mais je me suis trompé là, parce que regardez, j'ai créé cette boîte, mais j'aurais dû créer cette boîte si l'argument était passé, si l'argument était mutable. Mais en camel, rappelez-vous, les arguments sont tout le temps finaux. Donc, c'est pas ça qui se passe, c'est ça. Et donc, je me retrouve exactement dans la même situation qu'en Pascal. Mais pourquoi? Parce que au moment où j'ai appelé la fonction, j'ai calculé la valeur de A. La valeur de A, c'est cette boîte. Et comme l'argument est final, vous vous souvenez quand un argument est final, on se contente de piquer le nom sur la valeur. Mais là, la valeur, c'est une boîte. Donc, ça tombe bien. Je le pique comme ça. Et donc, maintenant, quand j'intervertis ici le contenu de X et le contenu de Y, eh bien, j'intervertis à la fois le contenu de A et de B. Donc, ici, la valeur de X, c'est cette boîte. Et la valeur de point d'exclamation X, c'est 4. D'accord? Donc, je vais mettre 4 ici dans Z. Et puis je vais mettre 7 dans X, et puis je vais mettre 4 à nouveau dans Y, et donc je vais avoir interverti le contenu des boîtes X et Y, c'est-à-dire le contenu des boîtes A et B. Donc ça, c'était ce que fait Camel, et vous voyez que contrairement à Pascal, il n'y a pas besoin d'un nouveau mot-clé, il n'y a pas besoin d'une nouvelle construction, et on utilise ici simplement le fait que les références en Camel sont des valeurs comme les autres, et qu'on peut parler de la référence associée à une variable simplement en écrivant le nom de la variable. Donc c'est là où on tire le bénéfice de ce qui est tout le reste du temps un boulet à traîner qui est ce point d'exclamation qu'on doit mettre devant la variable. C'est le jour ici d'en profiter. Quand on n'en met pas, on a accès au nom de la boîte. Bien, donc on a vu le cas de Pascal, on a vu le cas de Camel. Passons au cas de C. Alors, le cas de C est tout à fait similaire à celui de Camel. Ce qu'on veut faire, c'est, quand on est dans cette situation, mettre dans X, non pas la valeur qui se trouve dans la boîte A, mais la boîte elle-même. Sauf que en C, si j'écris A tout seul, à quoi je fais référence ? Quelle est la valeur de A? C'est 4, c'est pas la boîte. Eh bien, c'est pas grave, on a introduit une nouvelle construction en C qui permet de faire comme en Camel et qui est ce E commercial, ce signe, l'esperluette qui se trouve sur le clavier, sur la même touche que le 7. Donc, nouvelle construction, je ne peux appliquer ici l'esperluette que à une variable. Et la valeur de l'expression esperluette x, eh bien, ça va être r, c'est-à-dire simplement e de x. Au lieu d'être m de e de x, la valeur associée dans la mémoire à la référence associée dans l'environnement à x, eh bien, ça va être la référence associée dans l'environnement à x. Et puis, il y a une construction étoile, qui est exactement la même chose que le point d'exclamation en camel. Et il y a une construction étoile t égale u, qui est la même construction que le 2 points égal en camel. Donc ici, il faut que T ait comme valeur une référence, et j'associe la valeur de U à la référence qui est la valeur de T dans l'environnement. Donc maintenant, comment je vais utiliser ça pour la fonction swap? Au lieu d'appeler la fonction swap sur A et B, ce qui aurait le même effet que de l'appeler sur 4 et 7. Et donc, une fois que j'ai les valeurs 4 et 7 et que j'ai perdu les références aux boîtes, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus intervertir leur contenu. Je l'appelle sur esperluette de A et esperluette de B, c'est-à-dire sur la valeur sur la boîte qui se trouve ici et la boîte qui se trouve là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où j'appelle cette fonction? Ici, les arguments, est-ce qu'ils sont finaux ou est-ce qu'ils sont mutables? Ils sont mutables. Pour une fois, ils sont mutables. Donc, je crée deux boîtes, une que j'appelle X et une que j'appelle Y. Et je mets dans la boîte X la valeur de esperluette de A, et la valeur de esperluette de A, c'est cette boîte. Donc c'est la C en C que j'ai besoin de ce pointeur. Et donc je mets celui-ci ici, et celui-là, là. Bien, maintenant, quelle est la valeur de X? Alors quelle est la référence associée à X? C'est cette boîte. Mais quelle est la valeur de X? C'est le contenu de cette boîte, puisque je suis en C, j'ai une variable qui est mutable, donc la valeur de X, c'est pas la référence, c'est le contenu de la boîte. Et le contenu de la boîte, c'est quoi? C'est l'autre boîte. Donc la valeur de X, c'est cette boîte-là. Et quelle est la valeur de étoile X? Eh bien, c'est le contenu de cette boîte, et maintenant c'est 4. OK? Donc ici, je vais mettre dans Z 4. Et ça, c'est une affectation normale. Hein. C'est le égal, c'est l'affectation habituelle de C. Ici, j'ai la nouvelle affectation que j'ai introduite au transparent précédent, où je ne vais pas mettre cette valeur-là dans X, mais je vais mettre cette valeur-là dans la référence dont X est la valeur. Donc, commençons par ça. Quelle est la valeur de Y? C'est quelle boîte? Celle-là? Non, c'est celle-ci. Quelle est la valeur de étoile Y? C'est 7. D'accord? Le étoile, c'est comme le point d'exclamation au camel. Quand on a une expression qui désigne la boîte, étoile, cette expression, ça désigne le contenu de la boîte. Donc, ça s'évalue sur 7. Maintenant, quelle est la valeur de X? C'est la boîte qui se trouve là. Attention, pas celle-là. Je prends le contenu de cette boîte, c'est-à-dire cette boîte-là. Et cette instruction qui est disconnexe, là, qui est étoile une variable égale, étoile une expression égale une autre expression, eh bien, ça veut dire que dans la boîte qui est la valeur de X, c'est-à-dire cette boîte-là, je mets la valeur de cette expression, c'est-à-dire 7. Et donc, je vais mettre le 7 ici. Et vous avez compris que je vais ensuite faire exactement la même chose, à savoir mettre le 4 là. Et donc j'ai interverti le contenu de ces deux boîtes sans savoir qu'elles s'appelaient A et B. J'aurais pu oublier qu'elles s'appellent A et B. Ici, A et B sont des variables globales. Donc je continue à savoir qu'elles s'appellent A et B, mais si A et B étaient des variables locales, au moment de l'appel de la fonction, j'aurais enlevé ces deux noms. Et vous voyez que je peux intervertir le contenu de ces deux boîtes sans connaître leur nom. Parce que j'ai un deuxième moyen de les désigner, c'est la boîte étoile X et la boîte étoile Y. Et donc voilà un autre programme écrit en C qui affiche 7 et 4. Et donc là, vous voyez une différence entre C et Camel. Camel est entièrement fondé sur des principes théoriques les plus propres. La variable désigne la référence. Si jamais vous voulez désigner le contenu de la référence, eh bien vous ajoutez un point d'exclamation devant. Alors que C part d'un autre principe qui est de dire, dans 99% des cas, on a besoin du contenu de la variable. Donc on va simplifier la vie des programmeurs dans ce cas-là. Et dans 1% des cas, on a besoin de la référence associée à la variable. Et donc c'est là qu'on va avoir une construction particulière qui est l'esperluette. Et donc vous voyez que l'affectation ici, Z est égal à étoile X. C'est pas une opération atomique en C parce qu'elle peut se décomposer en étoile esperluette de Z est égal à une expression. Et c'est la manière dont on écrit les choses en camel, sauf qu'on n'écrit pas l'esperluette et l'étoile égale, c'est l'affectation. Bien, donc on a vu le cas de Pascal, on a vu le cas de camel, on a vu le cas de C. Et donc, on se dit le cas qui nous intéresse, c'est le cas de Java. Et donc on va terminer avec Java pour vous dire qu'on ne va pas voir ça aujourd'hui, parce que pour simuler le passage d'arguments par référence en Java, on a besoin d'une nouvelle construction qui s'appelle les types enveloppés. Et les types enveloppés, on verra ça que dans deux séances. Donc on est obligé là de suspendre ce développement sur le passage d'arguments, et on ne pourra le voir quand on aura vu cette notion de type enveloppé. Voilà, donc ça termine cette longue partie qui est consacrée aux fonctions. Et comme on va le voir, l'appel de fonction, c'est dans les langages de programmation une des structures de contrôle les plus utiles. Il y a des langages dans lesquels vous n'avez pas de boucle, dans lesquels vous avez à peine des tests, et dans lesquels l'appel de fonction est ce qui permet de vous battre dans le programme, de sauter d'un bout du programme à un autre bout du programme. C'est la fonctionnalité la plus utilisée. Et donc, il est normal que ce chapitre des fonctions soit un chapitre un petit peu long dans l'étude des structures de contrôle. C'est la structure de contrôle la plus puissante et la plus intéressante. Maintenant, donc, on va avoir une dernière structure de contrôle, qui est la récursivité. Et la récursivité, on va le voir dans le cas des fonctions récursives. Mais il y a des langages de programmation dans lesquels la récursivité est une construction qui est complètement indépendante de la notion de fonction. Donc, par exemple, ceux qui, en troisième année, prendront le cours de théorie des langages de programmation, verront un langage qui s'appelle PCF, qui est un langage complètement théorique, qui n'est pas un langage qui est utilisé pour écrire des sites web et des applications comme ça, mais qui est un langage qui est utilisé pour réfléchir sur la notion de langage, dans lequel on a complètement séparé la notion de fonction de la notion de récursivité. Il y a une construction explicite de récursivité. Bien, et on va commencer par se poser une question relative à nos définitions des fonctions θ et sigma. C'est est-ce que ces fonctions qu'on a définies la dernière fois et aujourd'hui sont bien définies? Est-ce que ces définitions sont correctes? Alors pourquoi est-ce qu'on peut se poser cette question? Rappelez-vous la manière dont on a défini la fonction θ dans le cas où l'expression dont on cherche à calculer la valeur est une somme, t plus u. Eh bien rappelez-vous, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On calcule θ de t, on appelle ça v. On calcule θ de u, on appelle ça w, et ensuite on ajoute v et w, les valeurs des expressions t et u. Puis bon, je vous passe les détails sur la mémoire qui est transformée une première fois puis une deuxième fois, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est que pour définir θ en t plus u, on a utilisé θ en t et θ en u. Alors on peut se demander, est-ce que cette définition est bien formée ou est-ce qu'elle est circulaire? Et il n'est pas difficile de s'en rendre compte qu'elle est bien formée, dans ce cas-là, au moins, parce que T et U sont des expressions qui sont plus petites que T plus U. Donc, on peut voir ça comme une définition par récurrence sur la taille des expressions. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette intuition que la fonction θ est définie par récurrence sur la taille des expressions est exacte ou non? Et le cas qu'on doit regarder, c'est celui de la définition des fonctions. Alors, je vous ai dit la dernière fois, quand on a une fonction, c'est-à-dire une expression qui a la forme f de t1, tn, eh bien on fait un certain nombre de choses. On commence par calculer la valeur de t1, par calculer la valeur de tn, et puis on cherche l'environnement, on construit l'environnement dans lequel on va exécuter le corps de la fonction, e seconde, on fabrique la mémoire dans laquelle on va exécuter le corps de cette fonction, m seconde, ça consiste essentiellement à mettre des nouvelles boîtes sur la table et éventuellement en enlever quelques-unes. Et maintenant, on exécute le corps de la fonction p. Est-ce que le corps de la fonction p est forcément plus petit que cette expression? Ben, ici, il n'y a aucune raison. Au contraire, si on a introduit la notion de fonction, c'était bien pour avoir une seule instruction, sauter trois lignes, qui remplaçait un bout de programme de grande taille, sauter à la ligne, sauter à la ligne, sauter à la ligne. Donc ici, on s'aperçoit que cette première idée qu'on avait eue, qui était de dire Ben, la définition de la fonction sigma et de la fonction θ, c'est juste des récurrences sur la structure, sur la taille des expressions et des instructions. Ben, elle tient pas du tout la route, elle est complètement en prise en défaut ici. Et donc on peut se demander, est-ce que cette construction est bien formée? Et alors, est-ce qu'il y a un cas que vous voyez où elle est clairement bien formée? Avant de répondre généralement à la question, essayons de trouver des exemples. Est-ce qu'il y a des cas où, la fonction, où cette définition est bien formée? Prenez le cas de sauter une ligne, sauter une ligne, sauter une ligne. Donc pourquoi est-ce que sigma de sauter une ligne, sauter une ligne, sauter une ligne, on sait ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas dans le corps de la fonction d'appel de fonction. Et donc là, on a un cas où il n'y a pas de circularité dans la définition, qui est le cas où on a uniquement des définitions de fonctions qui ne contiennent pas elles-mêmes d'appel de fonction. Donc si on a dans le programme principal des appels de fonction, mais dans le corps de ces fonctions, on n'a pas d'appel de fonction, eh bien dans ce cas-là, on peut montrer que on a simplement une récurrence sur deux objets, une récurrence double. D'abord, la fonction qu'il y a dans l'expression, le nombre d'appels de fonction qui est dans l'expression, puis sur la taille de l'expression. Bon, mais bien sûr, avoir des fonctions qui ne peuvent pas utiliser d'autres fonctions, c'est très contraignant. Il y a un deuxième cas qui est un petit peu dans la même idée, c'est si on a une suite de fonctions, f1, f2, f3, fn, qu'on définit l'une après l'autre, et dans lesquelles, dans f1, on n'utilise pas du tout de fonction, on n'a aucun appel de fonction. Dans f2, on peut avoir des appels de fonction, mais uniquement des appels de fonction à f1. Dans f3, on peut avoir des appels de fonction, mais uniquement aux fonctions qui sont définies avant, c'est-à-dire f1 et f2. Etc. Et puis dans le programme principal, qui se trouve tout en bas, on peut utiliser toutes les fonctions. Et ça, c'est la manière dont on fait des définitions en mathématiques. Donc on a dû vous apprendre que quand on donne des définitions mathématiques, on n'est pas obligé de revenir aux notions premières. On peut utiliser des définitions, mais uniquement des définitions qui se trouvent au-dessus, dans le livre, c'est-à-dire à des pages de plus petits numéros, et non pas des définitions qui se trouvent après. Et si vous utilisez des définitions qui se trouvent après, vous avez un risque de circularité. Alors cette même idée qui est la notion de définition qu'on a dans les livres de mathématiques ou dans les livres de sciences ou de n'importe quoi, eh bien c'est la première idée qui a été utilisée dans de très vieux langages comme Fortran. Et donc dans les premières versions de Fortran, dans une fonction, vous ne pouvez appeler que des fonctions qui se trouvent au-dessus. Et vous voyez que si vous reprenez l'idée que je vous avais donnée hier, qui est qu'une fonction, c'est juste un moyen d'isoler un qui pourrait être inliné dans le programme principal. C'est-à-dire qu'on aurait pu le garder dans le programme principal, mais on l'a isolé. Et cette opération qui consiste à remplacer la définition par le corps de la définition, ça s'appelle inliner une définition. Expanser une définition, je pense qu'on doit dire en français. Et vous voyez que si on part de cette idée qu'on avait un énorme programme, et puis qu'après, pour mieux le présenter, on a isolé un petit bout qu'on a appelé fn, et puis après, on a isolé un petit bout ou bien du programme principal ou bien de fn, on l'a appelé fn-1, puis on a isolé encore un petit bout de quelque chose qu'on a appelé fn-2, puis on a comme ça fini par créer la fonction f, et bien vous voyez qu'on vérifie cette propriété, qu'à chaque fois, on a isolé un petit bout, qu'on a remonté, et donc il n'y a pas d'appel vers des fonctions qui se trouvent plus bas. Donc ça, c'est... la première convention qui a eu lieu dans l'histoire de l'informatique, qui s'appelle les fonctions non récursives, les fonctions sans récursivité. Mais bon, c'est pas le cas général et c'est pas le cas de tous les langages qu'on connaît aujourd'hui, dans lesquels on a ce principe qu'une fonction peut être appelée, que toutes les fonctions peuvent être appelées dans le corps de toutes les fonctions, et en particulier, une fonction peut s'appeler elle-même. Et donc, je peux définir comme ça une fonction f qui prend un argument x et dont le corps, c'est return f de x. Et dans ce cas-là, vous voyez que pour définir θ de f de x, eh bien, il faut que je dise je fabrique un environnement, blablabla, et puis je dois exécuter le corps de la fonction, c'est-à-dire return f de x, et pour ça, je dois évaluer f de x, et donc la définition de θ de f de x utilise la définition de θ de f de x. Et pour une fonction comme celle-ci, la définition de la fonction θ qu'on a donnée est clairement circulaire. Donc, il faut arriver à trouver une idée pour sortir de cette impasse. Alors, avant ça, on va faire une petite digression qui est, est-ce que c'est utile d'appeler une fonction dans le corps de cette même fonction? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce que ça vaut la peine de se fatiguer pour transgresser ce principe qui était un vieux principe mathématique qu'on utilisait que les définitions qui se trouvaient au-dessus? Et il s'avère que c'est très utile. Par exemple, vous pouvez programmer la fonction factorielle comme ça. Donc, la factorielle, si x est égal à 0, vous retournez 1. Et sinon, vous calculez la factorielle de n-1, et vous multipliez la factorielle de n-1 par x, et ça vous donne la factorielle de x. Donc, vous voyez que c'est un moyen extrêmement puissant de définir des fonctions, comme la fonction factorielle. C'est beaucoup plus simple d'écrire la fonction factorielle comme ça que d'écrire une boucle dans laquelle on a un accumulateur qu'on va initialiser à 1 et puis qu'on va successivement multiplier par 1, par 2, par 3, par 4, etc. Et en particulier, quand on a des programmes relativement complexes, où on a du mal à voir ce qui va se passer dans le programme jusqu'au bout, on a du mal à écrire ce qui va se passer jusqu'au bout, eh bien, c'est beaucoup plus facile de programmer ça en disant bah, « j'essaye juste de me ramener à un cas un peu plus simple, un peu mieux défini, et d'utiliser la récursivité, c'est-à-dire la possibilité pour une fonction de s'appeler elle-même dans lors de son exécution. Donc vous voyez que si je veux calculer la factorielle de 4, je vais calculer factorielle de x dans un environnement où x vaut 4, et ça va être défini en utilisant factorielle de x dans un environnement où x vaut 3, qui va être défini en utilisant factorielle de x dans un environnement où x vaut 2, qui va utiliser dans sa définition factorielle de x dans un environnement où x vaut 1, qui va utiliser dans sa définition la définition de factorielle de x dans le cas où x vaut 0, et ça vaut 1. C'est le cas d'arrêt de la récurrence. Après avoir appelé ma fonction à un certain nombre de fois, eh bien, je tombe sur un cas où ici le test m'envoie sur un bout de code qui ne contient pas d'appel récursif, et donc ça vaut 1, et donc ça vaut 1, et ça vaut 2, et ça vaut 6, et ça vaut 24. Donc cette fonction non seulement termine, mais calcule la factorielle au moins de 4. Et on peut vérifier que c'est le cas pour tous les entiers. Alors, il y a même des fonctions qui appellent des fonctions qui sont définies avant elles et après elles. Ici, par exemple, la fonction pair, qui indique si un nombre est pair ou non. Quand n est égal à 0, je renvoie true, parce que 0 est pair. Et sinon, bah, j'enlève 1 à n, ça me fait n-1, et n est pair si et seulement si n-1 est impair. Et impair, c'est défini exactement de la même manière. Alors, c'est pas la meilleure manière de tester si un nombre est pair ou pas, mais c'est une manière qui fonctionne. Et ici, on n'a pas de fonction qui s'appelle elle-même, mais on a une fonction pair qui appelle une fonction impair, qui elle-même rappelle une fonction pair. Donc, au bout d'un certain nombre d'appels, on va retomber sur la même fonction. C'est un autre cas de récursivité qu'on appelle une définition mutuellement récursive. Alors, bien sûr, si vous regardez cette définition par récurrent, cette définition de la factorielle, vous allez dire, mais cette définition, on la connaît. C'est comme ça qu'on nous a défini la factorielle au lycée. Effectivement, la factorielle, c'est une suite qui se définit par récurrence. Et factorielle de n+1, c'est défini comme n+1 fois factorielle de n. Et donc, on peut se dire, cette notion de récursivité, c'est jamais qu'un autre nom pour récurrence. D'ailleurs, les deux mots se ressemblent. Okay, on a l'impression qu'ils viennent de la même origine. Et donc, on a juste ici trouvé un autre nom pour une définition par récurrence. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des définitions récursives qui ne sont pas des définitions par récurrence. Par exemple, cette fonction f. Cette fonction f, si vous lui donnez comme argument 0 ou 1, donc un entier n qui est plus petit que 1, elle retourne 1. Donc f de 0 vaut 1, f de 1 vaut 1, jusque-là tout va bien. Si vous avez un nombre qui n'est ni 0 ni 1, il y a deux cas. Le premier cas, c'est où n est pair, auquel cas vous vous rappelez sur n sur 2, puis vous ajoutez 1, peu importe. Et quand n est impair, vous vous rappelez la fonction f, non pas sur un nombre plus petit, non pas sur n-1, ni même sur un nombre plus petit, mais sur n+1. OK ? Et alors, est-ce que cette définition est une définition par récurrence? Non. Une définition par récurrence, ou bien vous connaissez un tout petit peu les définitions par récurrence et vous savez que vous avez le droit d'utiliser la valeur juste avant, ou bien vous connaissez bien les définitions par récurrence, et vous savez que vous pouvez utiliser la valeur juste avant, ainsi que toutes celles qui sont avant, mais que, en aucun cas, vous pouvez utiliser la valeur de f après. Et pourtant, si j'essaye de calculer f en 11, ça va me demander de calculer f en 12, puis f en 6, puis f en 3, qui est impair, donc f en 4, puis f en 2, et puis f en 1, et ça, je sais le faire, c'est 1. Donc vous voyez qu'au moins dans le cas 11, cette fonction est bien définie, mais pour calculer f de 11, j'ai besoin de calculer d'abord f de 12, et de la même manière ici, quand je vais tomber sur 3, je vais me rappeler sur un nombre plus grand qui est 4. Est-ce que cette définition est tout le temps correcte? Est-ce que pour n'importe quel nombre, si j'exécute la fonction f de n, je vais toujours obtenir un résultat? Oui? Alors pourquoi? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur 11? Est-ce qu'en partant de 11, on peut aller en 12 et puis après revenir en 11? Non, pourquoi? Voilà, parce que si n est plus grand que 2, ben au maximum en deux étapes, je vais retomber sur quelque chose de plus petit. D'accord? Ou bien c'est pair, je vais me retrouver en n sur 2 plus 1, en n sur 2, ou bien n sur 4, ou bien n sur 2 plus 1, ou bien c'est impair, et je vais me retrouver en n plus 1, sur 2. Donc comme n est plus grand que 1, ça va avoir décru. Donc cette définition, elle a l'air tout à fait correcte, et elle n'a pas l'air d'être au moins formulée comme une définition par récurrence. Alors cela dit, cette fonction-là, je pense qu'on peut la définir par récurrence, puisque l'argument que vous avez donné, on peut l'utiliser pour passer une récurrence, mais il y a des fonctions plus graves que ça, comme la fonction d'Ackermann. Alors la fonction d'Ackermann, c'est une fonction que beaucoup d'entre vous ont sans doute imaginé un jour. Donc rappelez-vous, quand vous étiez en cinquième, on vous a défini ce qu'était la puissance. On vous a dit A, la puissance n, c'est A fois A fois A fois A fois A n fois. Vous vous souvenez de ça? Bon, ok. Et votre prof de cinquième vous a dit, bah, c'est exactement comme A fois n, c'est A plus A plus A plus A plus A n fois. Et vous n'avez pas dit ça? Donc, au départ, vous avez l'addition. D'ailleurs, l'addition A plus B, c'est A plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 B fois. Donc, au départ, vous n'avez qu'une opération sur les entiers qui est de faire le successeur, de prendre le nombre qui est après. Puis, si vous itérez cette opération N fois, vous obtenez l'addition, ça s'appelle A plus N. Si vous itérez l'addition N fois, ça s'appelle la multiplication, c'est A fois N. Et si vous itérez la multiplication N fois, ça s'appelle la puissance, ça s'appelle A puissance N. Et quelle est la question que vous avez posée à votre prof en cinquième qui lui a fait comprendre que vous irez un jour à l'école polytechnique? Et vous lui avez dit, et si on itérait la fonction A à la puissance N, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Et là, il vous a sans doute répondu, mon pauvre ami, oubliez cette idée, qui n'a aucun sens. Mais si, parce qu'Ackermann a eu cette idée avant vous, je suis désolé, c'était avant vous. Et donc la fonction d'Ackermann est définie comme ça, c'est une famille de fonctions. Vous avez la fonction A0, qui est simplement la multiplication par 2. Alors Ackermann ne prenait pas la multiplication par 2, il avait un troisième argument. Il prenait la multiplication par K, mais peu importe, après on a simplifié ça en disant un des arguments, ça sera toujours 2. Donc la fonction A0, c'est la multiplication par 2. Et quand on itère la fonction A0, on obtient 2 puissance Y, la fonction A1. A1 de Y, c'est 2 puissance Y. Et A1 est défini comme ça, par récurrence. A1 de 0, c'est 1. Et A1 de Y plus 1, eh ben, c'est 2 fois A1 de Y. Ok, ne froncez pas les sourcils, c'est le problème de cinquième. Là. On est encore à la définition de la fonction puissance. La seule chose bizarre, 2 puissance N, c'est qu'elle s'appelle A1. Et au lieu d'écrire 2 fois A1, je vais écrire A0 de A1, puisque A0, c'est la multiplication par 2. Et donc là, vous voyez la manière qu'on a d'itérer la fonction A0 pour obtenir la fonction A1. Bien, maintenant, la fonction A2, qui est la première fonction qu'on ne voit pas en cinquième. A2 de Y, c'est 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 Y fois. Et elle est définie comme ça. A2 de 0, c'est 1. Et A2 de Y plus 1, c'est 2 puissance A2 de Y, c'est A1 de A2 de Y. OK? Donc maintenant, voici. Maintenant, vous pouvez considérer ça comme une fonction de deux arguments. L'indice, vous pouvez le considérer comme l'un des deux arguments. Et vous avez la fonction d'Ackermann qui est définie comme ça. Ax plus 1 de y, c'est ax de ax de ax de ax de 1, avec y fois des ax ici. Et donc, ça se définit par récurrence comme ax plus 1 de 0 égale 1. Et ax plus 1 de y plus 1, le cas 0, le cas plus 1, là, c'est ax de ax plus 1 de y. Et donc voilà les valeurs. La première ligne, c'est facile. C'est les doubles. 0, c'est les paires. 0, 2, 4, 6, 8, 10. La deuxième ligne, vous reconnaissez les puissances de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Et la deuxième ligne, ça commence à aller un peu plus vite. 1, 2, 4, 16, 65536, ça c'est 2 puissance 16. Et puis après, vous faites 2 puissance le précédent, ça c'est 2 puissance 65536. Et le suivant, c'est 2 puissance 2 puissance ça. Ça, c'est le premier nombre dans le tableau que vous ne pouvez pas écrire en base 10. Enfin, vous pouvez l'écrire en base 10 ou en base 2 si vous voulez, mais vous aurez une expression qui fait 65536 caractères. Donc, à raison de 1000 caractères par page, ça fait 65 pages. En base 2, ça fait un peu moins en base 10, mais bon, peu importe. Le suivant, là, n'essayez pas, hein. Alors, la fonction A3, elle va un petit peu plus vite. Donc là, vous avez vu, on passe juste au précédent en faisant 2 puissance n. Hein. 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 4, 2 puissance 16, 2 puissance, 2 puissance 16, etc. Alors la suivante, ça va un peu plus vite. Là, ça fait 1, 2, 4, ça commence toujours assez doucement. Là, directement, 65536, on a juste fait A2 de 4, on l'a récupéré là. Là, c'est 2 puissance 2, 2 puissance 2, 65536 fois. Donc là, c'est le premier nombre de ce tableau, vous ne savez pas écrire ni en base 10, ni en utilisant le symbole puissance. D'accord? Vous êtes obligé de mettre blablabla fois. Ici, je ne sais pas l'écrire. Ça s'écrit juste A3 de 5. C'est A3 de 5. C'est 2 puissance 2 puissance 2 2 puissance 2, ce nombre fois, deux fois là. Alors, il y a une anecdote avec la fonction d'Ackermann. Quand moi j'étais élève à l'école, on avait un prof d'informatique déjà, qui s'appelait Jean Vimin. Et donc il y a une histoire de deux représentants, et donc il fallait acheter un nouvel ordinateur pour les élèves. À l'époque, tous les élèves avaient un seul ordinateur. Et donc il y a eu deux marchands d'ordinateurs qui sont venus. Jean Vimin a dit au premier représentant, est-ce que je peux juste taper trois lignes de code? Donc il a défini la fonction d'Ackermann, oui, c'est vraiment trois lignes. Hein. Donc voilà le petit bout de code là à taper. Il faut juste savoir que A0, c'est 2x, mais bon, ça fait la troisième ligne. Et à chaque fois qu'on faisait plus 1, à chaque fois qu'on faisait 1 là, il ouvrait une fenêtre. Oui, parce que c'était un des premiers systèmes multifenêtres. Et alors le représentant a dit, mais allez-y, on a déjà fait des programmes de centaines de milliers de lignes, etc. Allons-y. Donc les fenêtres se sont ouvertes, 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 ouvertes. Et donc, il fallait en ouvrir ça, là. Donc au bout d'un moment, l'ordinateur ne répondait plus. Et puis alors on a essayé avec le deuxième représentant, et donc on lui a fait pareil, il a dit oui, allez-y. Et là, à un moment, il y a eu un message d'erreur qui a dit « Vous avez déjà ouvert 4 fenêtres, vous ne pouvez pas en ouvrir 5. » Donc ça, c'était une anecdote qu'on m'avait racontée quand j'étais élève. Alors depuis, j'ai croisé Jean Vimin de nombreuses fois. Je lui ai demandé si l'anecdote était exacte. Il m'a dit « Elle est complètement fausse. » Donc, vous croyez ce que vous voulez. Moi, je crois qu'elle est exacte, mais qu'il fait courir la rumeur qu'elle est fausse. Une autre chose que la fonction d'Ackermann nous apprend, c'est que des fois vous entendez, vous lisez dans Le Monde ou quoi, que l'inflation augmente. Alors bon, c'est un grave problème. Puis on dit, elle augmente exponentiellement. Donc ça veut dire qu'elle va très très vite. Mais c'est jamais que la deuxième ligne. Hein. Donc quand l'inflation augmentera comme ça, ou comme la diagonale, là il faudra commencer à s'inquiéter. Bien, donc la fonction d'Ackermann, pourquoi est-ce qu'elle est célèbre? Oui, voilà comment on la programme en Java. Hein. 4 lignes, je vous ai menti, je vous ai dit 3 lignes, c'est 4 lignes. Et la fonction qui a n associe à n de n, c'est une fonction qui croît tellement vite qu'on ne peut pas la définir en imbriquant des récurrences. OK, donc ça, on le démontrera en troisième année. Mais pour maintenant, pour le moment, il faut juste que vous me croyez que vous ne pouvez pas définir des suites par récurrence et tomber sur la fonction d'Ackermann. Et donc ça, c'est un théorème qu'on doit à Ackermann. Il l'a démontré en 1928, donc bien avant qu'on utilise la fonction d'Ackermann pour ouvrir des fenêtres. Bien, donc, cette idée que les définitions récursives étaient des définitions par récurrence est une mauvaise idée. Alors, autre idée, c'est que les définitions récursives sont des définitions circulaires. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était interdit d'écrire des définitions circulaires dans les livres de maths. Et donc, quand cette idée de récursivité est arrivée, c'était les années 60, donc une idée où il n'était pas populaire d'interdire, il était même interdit d'interdire, il était même interdit d'interdire, d'interdire. Mais à cette époque, on a dit formidable, les mathématiciens, pendant 2500 ans, nous ont interdit de faire des définitions circulaires, et maintenant, on va libérer l'esprit humain, on va autoriser les définitions circulaires. Ça s'appelle les définitions récursives. Donc c'est formidable. Mais si jamais on avait le droit aux définitions circulaires, vraiment, allons jusqu'au bout, et définissons la factorielle comme ça. Pourquoi s'embêter à faire en n-1 puis multiplier par x? Pourquoi s'embêter à distinguer le cas 0? Je veux dire, si on a le droit aux définitions circulaires, eh bien voilà, une définition circulaire qui définit complètement la factorielle. On a juste du mal à comprendre en quoi c'est la factorielle plutôt que la multiplication, mais c'est une définition circulaire correcte. Bien, donc, autre fausse piste, les définitions récursives ne sont pas des définitions circulaires. Et donc, maintenant, on va commencer à voir les bonnes pistes, une fois qu'on a éliminé les fausses pistes. La première, c'est que les définitions récursives permettent de fabriquer des programmes infinis. Et qu'est-ce qu'on a déjà vu qui permettait de fabriquer des programmes infinis? Les boucles. Et ça vous donne une idée qui va être l'idée essentielle dans les 40 minutes qui nous restent, c'est que les boucles et la récursivité sont essentiellement de manière redondante de dire la même chose dans les langages de programmation. Ce sont deux manières qui permettent l'une et l'autre de faire des programmes infinis. Alors voilà comment on peut éviter la récursivité dans la définition de la fonction fact. On part de la définition de la fonction fact qu'on avait tout à l'heure, qui est récursive. Fact de x, c'est si x égale 0, c'est 1, sinon c'est x fois factoriel de x moins 1. Alors on dit, c'est embêtant, il y a un appel récursif. Eh bien, c'est pas grave. À la place d'appeler fact, on va appeler la fonction fact 1. On dit, ah oui, mais c'est embêtant, elle n'est pas définie. Eh bien, c'est pas grave, on va la définir. Donc voici la fonction fact 1, et enfin la définition de la fonction fact, qui est la même, mais qui n'est pas récursive, parce qu'ici on appelle fact 1. Oui, mais il y a un problème. C'est qu'ici, cette définition, elle est récursive. Ben, c'est pas grave, au lieu d'appeler fact 1, on va appeler fact 2. Et fact 2, on l'a défini au-dessus. Et comme ça, vous pouvez itérer ce déroulement de la récursivité en appelant à chaque fois la copie précédente de la fonction, et vous avez un programme qui calcule le factoriel, qui n'est pas récursif, mais qui est infini. Alors, comme à chaque fois qu'on a des programmes infinis, on essaye de les approximer par des programmes finis. Et là, il y a une manière simple d'approximer la factorielle par un programme fini. C'est de dire à un moment, la fonction fact 10, là, ou fact 100, on ne va pas l'utiliser très souvent. Donc, on va la remplacer par quoi? Par une fonction qui dit « je sais pas ». Donc si vous calculez factoriel de 4, vous allez partir d'ici, vous allez calculer fact 1 de 3, vous allez calculer fact 2 de 2, fact 3 de 1, fact 4 de 0, ça fait 1, pop, vous revenez. Puis fact 100, si elle sait ou elle sait pas, c'est pas très grave. Bon, un jour, vous allez calculer factoriel 101, et là, on va vous dire « je sais pas ». Donc vous avez une fonction factorielle, quand vous tronquez ce programme infini et que vous le remplacez fact 100 par pas, vous avez une fonction qui calcule la factorielle jusqu'à 100. Ou peut-être 99. Enfin, non, jusqu'à, oui, jusqu'à 100, c'est bon. Et vous voulez calculer 150? Bah, tronquez plus haut. Vous avez une approximation qui vous calcule jusqu'à 100. Vous avez une meilleure approximation qui vous calcule jusqu'à 150. Et vous avez une meilleure approximation qui vous calcule jusqu'à 1000. Et la factorielle, ça va être la limite de toutes ces approximations. Donc on remplace ici la fonction factDIS par giveUp, c'est la fonction qui dit je ne sais pas. Et ça, ça veut dire qu'on a un programme qui tente de calculer factN en faisant au maximum 10 appels récursifs. Et si au bout de 10 appels récursifs, ça n'a pas marché, ben on abandonne. Donc voici les approximations de la factorielle. Première approximation, si c'est 0, vous dites c'est 1, le résultat c'est 1, factorielle de 0 c'est 1, et pour tous les autres, on ne sait pas calculer, on a abandonné. Deuxième approximation, si c'est 0, vous dites c'est 1, le résultat. Si vous avez 1, vous appelez l'itération précédente, l'approximation précédente en 0, et ça vous dit c'est 1, puis vous multipliez par 1 et ça fait 1. Deuxième approximation, la voilà, 1, 1, 2, et puis au-delà, vous ne savez pas. Troisième approximation, 1, 1, 2, 6, et au-delà, vous ne savez pas. Approximation suivante, 1, 1, 2, 6, 24, et au-delà, vous ne savez pas, etc. Ici, ce symbole « je ne sais pas », qui se lit « bottom », c'est la même chose que « ne pas être défini ». Vous vous souvenez, hier, on avait dit, quand une fonction sigma n'est pas définie, on peut ou bien dire « elle a une valeur » qui s'appelle « bottom », ou bien on dit « elle n'est pas définie en cette valeur ». Et donc ici, on utilise la deuxième convention, on dit « quand elle n'est pas définie, ben, sa valeur, c'est bottom ». Ce bottom, il a été introduit par Dana Scott, et Dana Scott a obtenu le prix Turing, qui est le prix Nobel d'informatique, mais pas pour ça. Ici, on a une espèce de matrice diagonale, comme on dit en prépa, avec au-dessus de la diagonale des bottoms et en dessous de la diagonale des valeurs. Et ça vient de quoi? C'est une conséquence de quoi? C'est une conséquence du fait que la factorielle est une définition par récurrence. Mais si vous prenez ma fonction, là, n plus 1, n sur 2 de tout à l'heure, eh bien, vous voyez que là, c'est plus du tout diagonal. La première approximation, je savais, vous vous souvenez de la fonction, là, hein, si c'est plus petit que 1, je renvoie 1. Sinon, si c'est pair, je divise par 2. Alors ça, c'est formidable parce que on n'utilise pas Windows justement pour éviter ça. Et même en Linux, ça commence. Bon, fermons la parenthèse. Vous vous souvenez de la fonction f? Quand c'est plus petit que 1, ça fait 1. Et sinon, si c'est pair, on divise par 2, on s'appelle sur n sur 2, puis on ajoute 1, peu importe. Et sinon, on se rappelle sur n plus 1. Donc, première approximation, si vous n'avez le droit de ne faire aucun appel récursif, eh bien, vous savez faire le cas 0 et le cas 1. OK? Sinon, vous ne savez pas faire. Si vous avez le droit à un appel récursif, vous pouvez faire le cas 2. Parce que le cas 2 va vous rappeler sur 1. Mais si vous avez le droit à deux appels récursifs, vous ne savez toujours pas faire le cas 3. Parce que le cas 3, ça fait 4, 2, 1. Mais en revanche, vous savez déjà faire le cas 4. Parce que le cas 4, ça fait 2, 1. Donc, deux appels récursifs, ça suffit. Donc vous voyez que ici, les bottoms ne vont pas disparaître selon une diagonale, mais ils vont disparaître d'une manière un peu plus complexe, mais c'est pas grave. Dans chaque colonne, il y a un moment où il va y avoir que des valeurs. Et une fois que vous avez des valeurs, les valeurs restent, bien sûr. Si vous avez le droit, si vous terminez en faisant 1000 tours de boucle, a fortiori, vous terminez quand vous avez le droit de faire 1001 tours de boucle. Vous n'utiliserez pas le tour de boucle supplémentaire, vous n'utiliserez pas l'appel récursif supplémentaire auquel vous avez droit. Vous n'utiliserez pas la fonction fact 3292 auquel vous avez droit. Donc ici, vous voyez que dans chaque colonne, vous avez d'abord un premier temps où vous allez avoir le symbole bottom, et puis vous allez avoir ensuite des valeurs. Et une fois que vous avez des valeurs, c'est toujours la même valeur, et donc vous pouvez définir la limite de toutes ces approximations. C'est si vous n'avez que des bottoms, eh bien ça fait bottom. Si vous avez des valeurs, eh bien c'est la valeur que ça prend. Bien, pour éviter tout cet appareil un peu complexe qui consiste à recopier la fonction en lui changeant son nom et en inventant des noms, en indiçant, etc., on a une manière beaucoup plus simple de définir ça. c'est de définir une fonction θ indice k qui est la même chose que θ, mais en autorisant k appel récursif imbriqué au maximum. Et alors la fonction θk, c'est exactement la même définition que θ, sauf dans le cas de la fonction. Dans le cas de la fonction, quand vous définissez θk, le jour où vous allez appliquer sigma au corps de la définition de la fonction, eh bien vous utilisez sigma k-1. Vous avez consommé un jeton, vous avez consommé un droit à faire un appel de fonction, vous venez de le faire. Et donc vous utilisez sigma k-1. Donc vous voyez que θk et sigma k sont définis en utilisant l'approximation précédente de la fonction sigma. On explique comment on peut exécuter un programme en faisant au maximum k appel récursif, k appel de fonction imbriqué, en utilisant, dans le cas de la fonction qui nous explique comment évaluer un programme en faisant au maximum k-1 appel de fonction imbriqué, puisqu'on vient d'en faire un. Et donc c'est une définition par récurrence sur k. Et donc là, elle est complètement correcte. Dans le cas de θ0, bien entendu, ou de sigma 0, eh bien, si on a un appel de fonction, c'est pas défini, c'est bottom. Et donc ça, c'est une simple récurrence sur k. Ça nous définit des approximations de la fonction θ et de la fonction sigma, c'est-à-dire des approximations de la fonction θ et de la fonction sigma appliquées, c'est-à-dire la fonction θ et la fonction sigma appliquées des approximations du programme. Et ensuite, on définit θ et sigma comme étant des limites des fonctions θk et sigma k, exactement comme on avait défini la fonction sigma dans le cas de la boucle comme étant une limite de la fonction sigma appliquée à des approximations des programmes. Donc cette idée, elle est extrêmement féconde. C'est une idée que vous connaissez en mathématiques. Vous savez que les nombres réels, on ne les connaît jamais. On n'en connaît que des approximations. Ils sont définis comme des limites d'approximation. Mais exactement de la même manière, les calculs en informatique sont définis comme des limites d'approximation de calculs en temps fini. D'accord? Donc ça, c'est une idée très féconde qu'on retrouve dans, non seulement en mathématiques et en informatique, et dans de nombreux endroits en informatique. Dernière bonne idée, dernière autre piste à explorer pour comprendre ce qu'est la récursivité, qui n'est pas une définition par récurrence, qui n'est pas une définition circulaire. Une autre idée, c'est que c'est une définition d'une fonction par point fixe. Et ça va nous amener une manière alternative de définir les fonctions sigma et θ. Vous vous souvenez de la définition de la factorielle? La factorielle nous dit, la factorielle, elle est définie comme ça. Si x à x, j'associe. Si x est égal à 0, alors 1. Sinon, x fois f de x moins 1. Et on a l'impression que ce égal, c'est le égal de la définition. On a l'impression que c'est le égal qu'on utilise le jour où on dit E, c'est égal à la somme des 1 sur factoriel k. C'est le égal qui permet de faire des définitions. Mais peut-être, c'est une fausse idée, c'est une fausse piste, et la bonne piste est de voir ce égal comme le égal d'une équation. Donc on n'est pas en train de dire F, c'est ce qui se trouve là, on est en train de dire, on cherche à résoudre une équation, on cherche une fonction F, qui vérifie cette équation. Et vous savez, dans une équation, vous avez le droit de mettre la variable à gauche et à droite. D'accord? 2x plus 1 égale 3x plus 2, c'est une équation bien formée. X égale 3x plus 2, c'est une équation bien formée. En revanche, ce n'est pas une définition bien formée, mais ça reste une équation bien formée. Et les équations qu'on trouve ici, dans les définitions récursives, elles ont une propriété, c'est que à gauche, on a juste une variable. On a une variable égale à une grosse expression dans laquelle la variable revient. Et ça, ça porte un nom en mathématiques, ça s'appelle des équations au point fixe. Parce que ici, cette grosse expression, on peut l'appeler phi, tout ça, là, je peux l'appeler phi de f, et donc l'équation a la forme f égale phi de f. Je cherche un f qui est le point fixe de la fonctionnelle phi. C'est quoi la fonctionnelle phi? C'est la fonction qui, à la fonction f, associe la fonction k qui à x associe, si x est égal à 0, alors 1, et sinon, x fois f, l'argument de phi, de x moins 1. OK ? Donc vous prenez tout ça, vous mettez un f flèche devant, et ça vous fait une fonction phi, qui est une fonction des fonctions dans les fonctions. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une fonctionnelle, c'est ce qu'en mathématiques vous appelez un opérateur, c'est un truc qui prend une fonction, et qui associe à nous une autre fonction. Et on dit, bah, la factorielle, c'est juste le point fixe de cet opérateur. Alors bien sûr, ça pose la question de savoir si cet opérateur, ici, a un point fixe ou pas. Et s'il en a plusieurs, il faut savoir lequel de ces points fixes on doit considérer. Et donc c'est là où on a un théorème utile, qui est un théorème, qu'on doit... tout un tas de gens, Tarski, Kastner, enfin tout un tas de gens, mais c'est Scott, le Scott dont je vous parlais tout à l'heure, qui a compris son importance pour comprendre la récursivité. C'est que toutes les fonctions ont un point fixe. Donc c'est le théorème du point fixe le plus simple et le plus général. Toutes les fonctions ont un point fixe. Il n'y a pas besoin qu'elles soient contractantes, lipschitziennes, je ne sais pas quoi. Les fonctions, vous prenez une fonction, elle a un point fixe. Alors, on va démontrer le théorème en prenant trois exemples, puis si c'est vrai dans trois exemples, vous vous convaincrez que c'est vrai partout. Cette équation, elle a un point fixe, c'est quoi? Factorielle. Bon, 1 sur 3. Cette équation, je cherche une fonction f qui est égale à la fonction qui à x m'associe 1 plus f de x. Est-ce qu'elle a un point fixe? Est-ce qu'elle a une solution, cette équation? Alors, tout dépend de où vous cherchez la fonction f. Si vous cherchez la fonction f dans les fonctions totales, de n dans n, là, il n'y a pas de solution. Alors, je vais vous le démontrer. Supposez que vous ayez une fonction qui vérifie ça. Dans ce cas-là, f de 0... qui est un entier, qui est défini, parce que la fonction est totale, f de 0 est défini, eh bien, c'est 1 plus f de 0. Or, il n'y a pas d'entier qui est égal à 1 plus n. Mais si maintenant vous cherchez des fonctions partielles, vous cherchez une solution dans l'ensemble des fonctions partielles de n dans n, mais dans ce cas-là, bien sûr qu'il y a un point fixe, bien sûr qu'il y a une solution. C'est la fonction qui n'est définie nulle part. Mettez ici la fonction qui n'est définie nulle part, 1 plus f de x, c'est pas plus défini que f de x, donc cette fonction-là non, est définie nulle part non plus, et hop, elle est égale à celle-là. C'est un théorème, c'est un théorème. C'est pas un tour de passe-passe. Cette équation, est-ce qu'elle a un point fixe? Oui, et elle a beaucoup de points fixes. La fonction factorielle, la multiplication, etc. Beaucoup de fonctions sont des points fixes de cette fonction. Mais quand je définis, quand je vois ça comme une définition par récurrence, c'est-à-dire je définis en Java un programme f de x return f de x. Quelle fonction j'ai définie? Une fonction qui boucle, donc qui n'est définie nulle part. Et donc parmi tous les points fixes de cette fonction, il y en a un qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'ailleurs aussi la solution de celui-là, c'est la fonction qui n'est définie nulle part. Et donc vous voyez que non seulement on a un théorème qui nous dit que toutes les fonctions ont un point fixe, alors toutes les fonctions de quoi dans quoi? Toutes les fonctions de l'ensemble des fonctions partielles de n dans n, dans l'ensemble des fonctions partielles de n dans n, ont un point fixe. Et non seulement elles ont toutes un point fixe, mais ces points fixes, ils sont ordonnés par une relation qui est « moi, je suis moins défini que toi ». Donc une fonction, regardez l'identité, est la fonction qui est définie nulle part. Elle coïncide sur l'intersection de leur domaine de définition, et l'une a un domaine de définition qui est inclus dans l'autre. Donc on va dire que la fonction qui n'est définie nulle part est plus petite que l'identité. Elle est plus petite que l'identité, elle est aussi plus petite que la fonction qui a x associe x plus 1, elle est aussi plus petite que la fonction qui a x associe x plus 2, Et la fonction qui a x associée x plus 1 et la fonction qui a x associée x plus 2, elles ne sont pas comparables, parce qu'elles ne coïncident pas sur l'intersection de leur domaine de définition. Donc vous avez non seulement un théorème qui vous dit qu'il existe un point fixe, mais il existe un plus petit point fixe, toujours. Et donc, la définition récursive, elle définit toujours une fonction partielle de n dans n, c'est-à-dire une fonction qui peut boucler, et qui est la plus petite, le plus petit point fixe de cette équation au point fixe. Ici, la factorielle, quel est le plus petit point fixe? Ben, c'est la fonction factorielle. Et pourquoi la fonction qui n'est définie nulle part, qui avait l'air d'être une solution de ça, une solution de ça, n'est pas une solution de ça? Ben, parce qu'en zéro, elle ne coïncide pas. Si vous mettez ici la fonction qui n'est définie nulle part, ici, ce que vous obtenez, c'est la fonction qui est définie en 0 et qui vaut 1, et qui n'est pas définie ailleurs. Et donc, ce n'est pas une solution de cette équation. La plus petite et l'unique solution de cette équation, c'est la factorielle. Donc, on peut se dire, on a deux bonnes idées. Une idée qui nous amène à définir la signification d'un programme comme celui-ci, ou comme celui-là, ou comme celui-là, comme des limites d'approximation, et une autre qui nous amène à les définir comme des points fixes. Et quelle est la bonne définition? Qu'est-ce qu'on veut choisir? Eh bien, la réponse, c'est que c'est exactement la même chose. Vous pouvez ou bien faire le premier choix, ou bien faire le deuxième choix. Vous allez arriver exactement au même résultat. Et pourquoi? Parce que le théorème du point fixe, il vous montre que toute équation a un point fixe, et ce point fixe, il est construit comme la limite d'une limite. Donc, vous arrivez exactement à la même chose. Comment est-ce qu'on montre que toute fonction, des fonctions partielles de n dans n, dans les fonctions partielles de n dans n, a une limite? Eh bien, vous prenez la fonction définie nulle part, vous itérez phi, vous avez des fonctions qui sont de plus en plus définies, et vous prenez la limite. Donc, c'est comme ça qu'on montre le théorème du point fixe. Et donc, vous voyez que voir ça comme des équations et le processus d'exécution comme un processus de résolution d'équations, eh bien c'est la même chose que voir des approximations successives qui consistent à borner le temps d'exécution et à dire on prend la limite. Donc on arrive exactement à la même solution. Et donc c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'il y a une seule sémantique correcte pour cette notion de récursivité. Bien. Pour terminer sur des choses un tout petit peu moins théoriques, on va parler de la programmation sans affectation. Et donc il y a un élève, quand on a déjeuné ensemble après l'amphi zéro, qui m'a posé la question, comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait des langages de programmation qui n'aient pas d'affectation, qui n'aient pas la construction de l'affectation? Donc par exemple, le langage Haskell, il n'y a pas d'affectation, il n'y a pas de égal, il n'y a pas de deux points égal, il n'y a rien qui ressemble à ça. Et voilà la réponse. Donc, vous avez vu qu'on a deux manières de programmer la factorielle. Il y a une manière de programmer la factorielle qui est celle qu'on pouvait faire dans le noyau impératif, c'est-à-dire avant-hier. On utilise uniquement l'affectation, la boucle, le test, et c'est tout. Donc la boucle, là, c'est une boucle for, mais la boucle for, c'est juste un cas particulier de la boucle while. Vous pouvez réécrire ça avec une boucle while si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la factorielle de x? Eh bien, on pose une variable r. Au départ, elle vaut 1, et puis on la multiplie successivement par 1, par 2, par 3, par 4, à l'aide d'une boucle. Et quand on la multiplie par tous les nombres entre 1 et x, eh bien, elle contient 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, fois x, c'est-à-dire factorielle de x. Donc, première manière de définir la factorielle, on n'a pas besoin de la notion de fonction, on n'a pas besoin de la notion de récursivité. Cette définition tient complètement dans le noyau impératif de Java. Deuxième manière de définir la factorielle, comme on l'a vu aujourd'hui, de manière récursive, et là on a besoin de la notion de fonction, et on a besoin de la notion de récursivité, mais on n'a pas besoin de la notion d'affectation, on n'a pas besoin de la notion de boucle. Donc ça nous amène à définir un autre fragment de Java Après le fragment impératif, après le noyau impératif qui était formé autour de cinq constructions, la déclaration, l'affectation, la séquence, le test et la boucle, on a un autre fragment de Java qui ne contient pas d'affectation. Si on supprime l'affectation, toutes les variables peuvent être finales. D'accord, puisqu'il n'y a pas d'affectation, on peut s'engager à ne pas affecter les variables, on ne voit pas comment on les affecterait. Donc on n'a que le passage d'arguments finaux, et la séquence devient inutile, et la boucle devient inutile. Parce que vous voyez que vous n'avez plus d'état, vous n'avez plus de moyen de modifier l'état. Donc à quoi bon faire une chose puis une autre si vous ne pouvez rien faire? À quoi bon répéter n fois une opération si vous ne pouvez rien faire? Donc la séquence et la boucle sont inutiles. Donc qu'est-ce qui vous reste? La déclaration de variable finale. La séquence, il n'y a pas. Le test, la boucle, il n'y a pas. Les fonctions et la récursivité. Donc le test, la déclaration, le test, les fonctions et la récursivité. Ça forme un autre ensemble de fonctionnalités, un autre sous-ensemble de Java qu'on appelle le noyau fonctionnel. Et donc les deux définitions qu'on a données ici, celle-là tient complètement dans le noyau impératif, celle-là tient complètement dans le noyau fonctionnel. Et alors ce qui est magique, c'est que Java, le noyau impératif de Java, ou le noyau fonctionnel de Java, permettent d'écrire exactement les mêmes programmes. Donc pas exactement les mêmes programmes, mais exactement les mêmes fonctions. Donc à chaque fois que vous avez une fonction des entiers dans les entiers, et que vous pouvez la programmer en Java, eh bien vous pouvez programmer la même fonction dans le noyau impératif de Java ou dans le noyau fonctionnel. Donc ce qu'on a vu sur l'exemple de la factorielle est tout à fait général. N'importe quelle fonction peut être programmée sans utiliser ou bien ni fonction ni récursivité, on fait tout avec des boucles, ou bien sans utiliser ni la séquence, ni l'affectation, ni la boucle. Alors comment est-ce qu'on peut formaliser un tout petit peu cette idée? Si vous prenez n'importe quelle expression t, vous pouvez la voir comme une fonction, vous pouvez lui associer une fonction. Par exemple, l'expression factorielle de x, vous pouvez lui associer une fonction qui est la fonction factorielle. Et ça, ben, c'est juste à un entier n, vous associez la valeur v qui est θ de cette expression dans un environnement où x est égal à n. Donc, par exemple, l'expression 2x plus 3, vous lui associez la fonction qui est x associe 2x plus 3. Okay, il n'y a rien de plus simple. Et ça, vous pouvez faire pareil pour les instructions. À chaque instruction, vous pouvez associer une fonction. Et à chaque langage de programmation, donc Java, son sous-ensemble impératif, son sous-ensemble fonctionnel, eh bien, vous pouvez à chaque fois leur associer un ensemble de fonctions. C'est ce qu'on appelle les fonctions programmables dans ce langage. Donc, on peut parler des fonctions programmables en Java, des fonctions programmables dans le noyau impératif de Java, des fonctions programmables en C, des fonctions programmables dans le noyau fonctionnel de C, etc. Et donc, après, il y a un petit théorème qui vous dit que vous pouvez toujours que cet ensemble de fonctions est le même. Et comment est-ce qu'on démontre ça? Bien, il suffit de montrer qu'on peut écrire un simulateur de Java dans le noyau fonctionnel de Java et un fonctionnaire simulateur de Java dans le noyau impératif de Java. Et vous avez montré que vous pouvez programmer toutes les fonctions de Java dans le noyau impératif et dans le noyau fonctionnel, et donc que ces trois langages sont égaux. Alors attention, alors cet ensemble de fonctions, il porte un nom, il s'appelle l'ensemble des fonctions calculables, donc on reparlera de ça en troisième année, cette notion de calculabilité. Mais attention, le noyau fonctionnel, il n'est complet pour la calculabilité, c'est-à-dire il permet de calculer les mêmes fonctions que Java, seulement depuis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis qu'on a la possibilité d'avoir des fonctions récursives. Si vous avez là un noyau fonctionnel avec juste des fonctions, mais pas la récursivité, donc typiquement à la Fortran, vous pouvez utiliser des fonctions, mais uniquement les fonctions que vous avez déjà définies, et que vous supprimez l'affectation et la boucle et la séquence, là vous obtenez un langage qui est très très faible. Vous pouvez démontrer que dans ce langage, tous les programmes terminent, et donc il vous manque des fonctions. Donc c'est vraiment la récursivité qui permet de se passer de l'affectation. Ce qui est assez surprenant, parce que quand on pense à l'affectation, quand on pense à la récursivité, on a l'impression que c'est des choses complètement différentes, mais c'est la récursivité qui permet de se passer de l'affectation. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Pour travailler ce cours, je vous propose de faire ces deux exercices, 2.13 et 3.3. Et la semaine prochaine, enfin, dans 10 jours, on abordera un sujet complètement nouveau. On a terminé avec les structures de contrôle et on attaquera un long chapitre consacré aux structures de données et on commencera avec les enregistrements.